Et le texte que je vous propose de méditer sur ce thème des langues et du langage se trouve dans le psaume 19, verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, leur retentissement, leur écho parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Vous connaissez ce poème ? La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire savait-il qu'il évoquait ainsi la poésie du psaume et célébrait par là même la grandeur de Dieu. Le psalmiste, David peut-être, car on lui attribue beaucoup de psaumes, proclame ici un message et en même temps célèbre un mystère. David perçoit dans la nature un langage universel, comme le poète, un langage universel derrière lequel pourtant se manifeste la grandeur de Dieu. Il complète ensuite, si vous avez la curiosité de lire la suite du psaume, il complète ensuite son émerveillement par un hymne à la loi de l'Éternel, à cette magnifique Torah qui tient tant de place dans la foi juive. L'Éternel restaure l'âme, il rend sage l'ignorant, il éclaire les yeux, il préserve le fidèle des égarements personnels comme des entraînements venus des autres. Un commentateur catholique, le père Beaucamp, traduit ainsi le verset 4. Il ne s'agit point là d'un message ou discours dont on peut percevoir les sons, et par toute la terre en retentit l'écho, et il commente le passage ainsi, finalement, personne ne comprend ou tout le monde comprend. En le chantant ou en le lisant, le croyant pressent ainsi tout ce qui l'anime et l'inspire, comme tout ce qui le dérange et le dépasse. Ce psaume m'a habité quelque temps et je me suis aperçu que je ne pourrais pas renoncer à essayer de le prendre comme thème de la prédication. Ce psaume est comme une vaste parabole. Au milieu et au-dessus des deux tableaux bibliques que je n'ai pas résisté non plus à l'intention de vous lire, Babel et la Pentecôte. Babel, c'est la tour de la démesure, c'est l'orgueil naissant d'une humanité à ses débuts. C'est la vision d'une unité souhaitée et envisagée, tantôt comme instrument d'expansion et de domination, puis suivie d'une vaste dispersion comme nous la connaissons aujourd'hui, et comme un redoutable ferment de division. Babel, retrouvée et reproduite cent et mille fois au cœur de nos cités avec ces gratte-ciels indéfinissables par-dessus les villes et les îles, à la fois, bien sûr, nécessité de logement et d'expansion, voire les promesses de nos gouvernements, et tantôt comme affichage de personnalités et de fortunes considérables qui construira la plus haute tour, Babel. Et puis la Pentecôte, localisé à Jérusalem dans un lieu qu'on n'a jamais retrouvé, c'est le miracle des langues apprises on ne sait trop comment ni où. C'est le miracle des langages échangés, de la communication commencée puis réalisée, puis de la communion possible, des populations réconciliées dans cette foule qui se presse à Jérusalem. Alors, les communautés engagées dans le témoignage et la mission. Alors la Pentecôte, c'est la merveilleuse image de l'Église naissante, émergente, fondée sur une foi que les langues reçues découvrent comme un trésor commun à transmettre à l'humanité. Pourtant, avant cette explosion ou cette expansion, avant ce premier élan, avant le vent impétueux et le feu qui tombe sur la petite demeure dans la maison où les 12 sont assis, il y a quelques mots pas souvent cités de Jésus à ses amis. Ce sont des mots un peu décalés entre la passion et la résurrection. Ils sont ces mots « L'heure vient où je vous ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Ces mots qui sont comme une anticipation de la Pentecôte et de l'irruption du Saint-Esprit sur les foules. On peut y entendre comme une promesse au cœur de ces discours d'adieu, ces discours d'adieu que l'on peut suivre notamment dans l'Évangile de Jean. Cherchez à comprendre. Nous sommes aussi, nous, une époque où l'Église n'est ou pas entendue par tous ceux qu'elle indiffère, ou pas comprise par ceux qui cherchent. Alors, de son côté, elle, l'Église, cherche de nouveaux langages pour atteindre ses contemporains. C'est le travail des théologiens, c'est l'effort des laïcs et des pasteurs. On essaye de se faire comprendre et entendre. Et alors il y a ce débat, quelle place faut-il donner ou laisser aux formes classiques, traditionnelles, de la piété ou du culte, comme cette occasion qui nous rassemble ce matin, ou alors au contraire, sur des rencontres innovatrices, imaginatives du culte. Il y a dans ce débat toute une approche du langage. Il y aura en effet ceux qui aiment se laisser étonner, motiver, entraîner par des innovations, par des mises en scène, par des lieux aménagés différemment, par des transpositions de langage. Qui n'aura eu entre ses mains la Bible en français courant, qui nous vient de loin, qu'on a sans doute conçue aussi pour les peuples africains, et où nous regrettons de ne plus entendre parler du boisseau sous lequel on a, ou du chandelier sur lequel on dresse la parole. Toujours des gens pour se laisser impressionner et motiver par des formes nouvelles. Et puis, après avoir souhaité expérimenter d'autres modes d'expression, de partage, il y a ceux qui favorisent quand même, et je crois que nous en sommes un cadre plus traditionnel qui convient mieux. Le souci d'une certaine mémoire que nous retrouvons dans la vieille Bible Second ou dans d'autres versions, nous aimons bien aussi la Bible de Jérusalem, un cadre plus traditionnel, un langage auquel on est habitué, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ou bien je garderai ton départ et ton arrivée. Et ainsi on peut, avec une théologienne récente, rêver à des temples qui, après nous avoir réunis, tournent leur accueil vers l'extérieur et qui, ainsi, une fois la liturgie vécue, les prières faites, peuvent aider tous ceux qui cherchent la joie, le courage et l'espérance pour les porter plus loin. Il y a dans toutes nos églises une recherche, il y a en ce moment une réflexion sur l'éventuelle nouvelle déclaration de foi de l'Église protestante unie. On pourrait même discuter sur l'usage du terme « déclaration de foi » qui existe depuis 40 ou 50 ans, ou confession de foi. La confession de foi étant davantage lié au dogme et à l'histoire. On remonte volontiers dans les premiers siècles où les grands conciles dits écuméniques ont créé ces premières confessions de foi auxquelles certains chrétiens restent très attachés. Et pour faire simple, et pour moi comme pour vous, je me suis dit que finalement, confesser, c'est déclarer humblement, sans contraindre, déclarer sans contraindre. Et que c'est aussi témoigner de ce que l'on ressent, de ce qu'on a vécu, sans dominer. Et enfin, de raconter, oui, tout ce que l'on sait de l'histoire biblique, de raconter en termes anciens et nouveaux, sans exclure. Déclarer sans contraindre, témoigner sans dominer, raconter sans exclure. Les cieux racontent la gloire de Dieu, nous dit le psaume. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Cet hymne pourrait, comme le poème de Baudelaire, s'intituler « Correspondance ». Correspondance entre la Bible, parole de Dieu, avec majuscule, et puis paroles humaines, avec nom minuscule. Correspondance entre ce verbe qui est avant et au-dessus des mots, et nos paroles hésitantes sur nos lèvres et dans nos cœurs et dans nos cerveaux. D'ailleurs, un pasteur de Genève, André Péry, avait intitulé le premier tome de son journal personnel et pastoral, il l'a intitulé « La parole » avec un majuscule « et les mots ». Correspondance, je la vois entre l'intuition poétique et aussi la vocation de Paul. Nous n'avons pas pu nous passer d'évoquer Paul. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », dit le vieil apôtre. Et il est vrai qu'à partir de la Pentecôte, cet événement fondateur, il y aura naissance, extension, élargissement, enrichissement de l'Église. Alors oui, de l'Église avec un grand E majuscule. D'époque en époque, de siècle en siècle, de fondation en transformation, d'événements où l'institution, le professeur Neuchâtelois avait créé un livre, l'institution et l'événement, de déformation, combien ? En réformation, cette réformation avec un grand R que nous n'avons pas fini ou presque de fêter et qui se fête en ce moment à Strasbourg, éveillant même l'intérêt des politiques, amenant même le ministre de l'Intérieur à s'exprimer et à rendre hommage au protestantisme. L'Église, je crois qu'elle ne cessera jamais d'être entendue, comprise, acceptée, envoyée. Et pourtant, comment ? Comment ? Paul n'était pas sans y penser. Dans l'épître lu tout à l'heure, il tient à se situer au-dessus, dit-il, des discours de la sagesse humaine. Et il fait, sans polémique, mais calmement, sereinement, la distinction entre les philosophes de son temps, qu'il connaissait sans doute, et la révélation biblique. Mais cette révélation juive, sans laquelle nous n'avons pas d'origine réelle, il la respectait suffisamment pour à la fois la dépasser et en conserver l'esprit. Paul, un passeur, il prône le dépassement, précisément, sans renier l'enracinement, le dépassement sans renier l'enracinement. Et c'est ainsi qu'il écrit aux Romains, dans cette magnifique, ce magnifique trilogie de Romains 9, 10 et 11, il dit cette petite phrase qui suffirait à méditer longtemps. « N'oublie pas, peuple chrétien, c'est la racine qui te porte. » Paul amorce en même temps une forme de dialogue avec les Grecs en saluant sur l'Aréopage, à deux pas de l'Acropole, ce monument au Dieu inconnu, Paul est le vrai champion de la liberté dans la fidélité. Mais comme c'est difficile, il dit ailleurs, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et là encore, ces choses, comment les discerner? Comment les déchiffrer? Langage de pasteur, langage de laïc, complémentaire les deux, aspiration générale et personnelle vers un mieux de la personne et un mieux de la société. Oui, comment chercher les thèmes et les termes permettant une action commune sans laquelle il ne vaudrait pas la peine de croire, chercher une réaffectation des églises et des personnes. Je crois, chacun a ses petites idées, parfois un peu fixes, je crois qu'on a peut-être trop privilégié les structures ecclésiales, pour ne pas dire ecclésiastiques. C'est un peu le cas dans mon église, je ne me prononcerai pas sur les situations qui sont celles actuellement en France et dans le cas de l'église protestante unie. Mais je crois que parfois on aurait tendance à se « sauver » entre guillemets en améliorant des structures et des organisations. Mais je puis modestement, simplement, qu'encourager ici et ailleurs des réseaux souples, des prises de position personnelles originales, mais en même temps respectueuses d'autres approches. Je vois de manière permanente un équilibre fructueux entre les domaines de la pensée et ceux de l'action. On ne l'appelle plus ainsi, mais le christianisme social a joué un rôle important et les formes actuelles de recherche tiennent toujours à cet équilibre entre la pensée et l'action. C'est pourquoi je me permets une petite note personnelle, comme quoi j'admire, tout helvète que je suis, la nature et la notion et la gestion de la laïcité reconnue et réfléchie en France. Alors que souvent ailleurs, elle est comme rampante, elle est comme l'alibi de l'indifférence quand ce n'est pas de l'hostilité et où les gens disent que c'est trop haut pour eux, trop compliqué et où ça motive parfois leur désaffection. Il me semble que tout langage utilisé, et nous n'y échappons pas, l'homme est un homme parlant, tout langage utilisé doit faire une part équitable entre les convictions héritées du passé, la racine qui nous porte, en particulier de la Réformation, et les sollicitations du présent comme porteuses de chance pour l'avenir. Usage de la langue aussi bien personnelle, à laquelle chacun de nous est encouragé dans son témoignage, prise de position plus officielle que la société attend, certainement, mêler judicieusement l'ouverture d'esprit, que l'on salue souvent précisément dans le protestantisme, et quand même l'exigence d'une certaine rigueur que souvent l'Écriture nous permet de maintenir. Retrouver le souffle de la parole céleste avec ses incursions souvent imprévues, comme Jésus qui dit au vieux Nicodème « L'Esprit souffle où il veut ». Et j'en viens maintenant, en conclusion, à un texte qui, au fond, a motivé aussi bien les lectures bibliques choisies que le cours de ma réflexion. Je suis heureux de citer ici un auteur que m'a fait connaître un auteur d'origine allemande, M. Heinz Wissmann, qui dit ne pas se placer délibérément sur le plan religieux, mais j'ai trouvé dans son livre qu'il s'inspire des deux cités, ou plutôt des deux entités évoquées par Babel et par la Pentecôte. Il les a choisis dans la conclusion que je vais vous apporter, non seulement dans leur légendaire, à la fois dans leur réalité à la fois légendaire et historique, mais aussi dans ce que ces deux images, ces deux tableaux, Babel et la Pentecôte, nous enseignent quand nous nous interrogeons sur la langue. L'ouvrage en question du professeur Wissmann s'appelle « Penser entre les langues ». Nous sommes condamnés à penser entre les langues. Mais ce n'est pas une condamnation, car il termine par un message qui me paraît très positif. Je le cite pour terminer. « Je ne suis pas pour le retour à un avant-Babel, mais pour la prolifération des langues. Loin d'être une punition, et là, c'est une sorte de contradiction avec des vieux schémas, loin d'être une punition, Babel, c'est un destin prometteur. » Il poursuit, « Je suis pour la Pentecôte, quand les apôtres parlent en langue. » Et tout en parlant chacun sa langue, chacun est dans l'authenticité expressive qui fait de lui un poète. Voilà le poète qui réapparaît. Et grâce à l'Esprit Saint, ils s'entendent. Voilà l'utopie véritable entre les langues, qui est le titre de son ouvrage. Voilà l'utopie véritable entre les langues, c'est la Pentecôte. Et il répète, je dis cela en dehors de toute adhésion religieuse, mais c'est une merveilleuse parabole. Parler en langue, c'est fantastique. Il y faut un miracle. La petite flamme qui descend pour que, tout en parlant en langue, tout le monde se comprenne. Et j'ajouterai que ce soit un des fruits de la grâce dans chacun de nos échanges. Amen.